Bonjour Historama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 21 septembre 1711 et je vous transporte au Brésil avec le coup de force de Duguay Trouin à Rio de Janeiro. Depuis 1701, la France de Louis XIV est engagée dans la guerre de succession d'Espagne qui l'oppose avec son allié espagnol au Saint-Empire romain germanique, à l'Autriche, à la Prusse, à la Grande-Bretagne, aux Provinces-Unies et au Portugal. La marine française y rencontre des fortunes diverses. Au début, la royale doit suppléer les carences de la flotte espagnole qui se révèle incapable d'assurer l'escorte des galions chargés des trésors du Nouveau Monde. En 1711, les opérations navales se déplacent vers le Brésil. René Duguay Trouin se voit confier la mission d'organiser et de conduire l'expédition de Rio de Janeiro qui consacre sa renommée. Les objectifs sont triples. Tout d'abord, venger le capitaine Jean-François Duclerc, parti en 1710 avec 5 vaisseaux et 800 hommes de troupes. Il débarque à 40 miles au sud de Rio de Janeiro et manque de peu de s'emparer de la colonie portugaise. Capturé, il meurt dans des conditions mystérieuses. Ensuite, faire main basse sur les richesses rapportées une fois par an du Brésil par les bâtiments portugais vers Lisbonne. Enfin, donner une leçon à la colonie qui accueille les navires de la coalition. Né le 10 juin 1673 dans une famille d'armateurs malouins, Duguay Trouin débarque pour la première fois en 1669 sur la Trinité. L'année suivante, il s'illustre au combat sur le Grenadan. Ce premier fait d'armes lui vaut à 18 ans de prendre le commandement du Danican. De 1692 à 1695, capitaine corsaire, Duguay Trouin multiplie les prises de vaisseaux anglais et hollandais. En 1696, à la tête du Sans-Pareil, il attaque un convoi hollandais et s'empare de 3 bâtiments de guerre, de 12 navires marchands et du vice-amiral hollandais Wassenaar. Cet exploit lui vaut de rejoindre la marine royale. En 1707, il détruit un convoi anglais qui transporte des renforts en Espagne, anoblit 2 ans plus tard, Duguay Trouin est nommé chef d'escadre en 1715, puis lieutenant général des armées navales en 1728. Décédé à Paris le 27 septembre 1736, il est inhumé en l'église Saint-Roch. Louis XIV intervient pour la préparation de l'expédition. Le 19 mars 1711, le roi Soleil et le comte de Pontchartrain, son secrétaire d'État à la marine, co-signent un contrat d'armement mixte avec Duguay Trouin et ses associés. Il s'agit d'un mode original, État privé, de financement et d'utilisation de la marine. La logistique est en grande partie prise en charge par la couronne, mais le financement est assuré par des particuliers. Cela permet de rentabiliser les bâtiments de guerre dont l'armement se révèle trop coûteux pour le trésor. Le contrat accorde à Duguay Trouin et à ses armateurs l'entière disposition des vaisseaux de cet armement pour être employés à leur destination. Louis XIV met à la disposition de la Société de Saint-Malo 7 vaisseaux de ligne, 4 frégates, une corvette, 2 galiotes à bombes et une flûte, l'ensemble transportant environ 6000 hommes. Les navires sont armés en grand secret dans les 5 principaux ports de la façade atlantique, Brest, La Rochelle, Rochefort, Dunkerque et Saint-Malo. Le 9 juin, l'escadre rassemblée à La Rochelle appareille. Le pavillon de Duguay-Trouin flotte sur le Lys, un vaisseau de 74 canons. Après une brève escale à l'archipel du Cap-Vert, la flotte française apparaît devant Rio de Janeiro le 12 septembre, sans avoir croisé le moindre bâtiment ennemi. Le navire du chevalier de Courserac, qui connaît un peu les lieux, pénètre le premier dans la vaste baie. Il ouvre le chemin aux autres bateaux qui franchissent l'étroit goulet à travers le brouillard. La nuit suivante, les Français s'emparent de l'île des Chèvres, Ilha das Cabras, en portugais, devenue aujourd'hui Ilha das Cabras, l'île des Ilha das Cobras, l'île des serpents. Les Portugais en sont chassés en moins d'une heure. Le 13 septembre, le matériel de siège est débarqué. Et le lendemain, près de 3000 hommes prennent position. Le 19 septembre, Duguay-Trouin somme le gouverneur portugais Francisco de Castro de Moraes de capituler. La réponse négative des autorités portugaises déclenche un important bombardement et l'incendie de l'escadre ennemie composée de 4 vaisseaux et de 3 frégates. Le 21 septembre, les Français entrent dans Rio de Janeiro. Ils libèrent 360 survivants de l'expédition Duclercq et font donner un tédéum dans l'église des Jésuites, suivant les habituelles scènes de pillage qui seront vertement reprochées à Duguay-Trouin. Le 10 octobre, le gouvernement portugais se résout à négocier la capitulation de Rio. Il accepte de verser une importante rançon qui est réglée le 4 novembre. 9 jours plus tard, l'escadre française appareille de Rio, chargée d'un copieux butin, 1350 kilos d'or et 1 600 000 livres de marchandises précieuses. Le voyage de retour est troublé par une terrible tempête au large des Açores qui entraîne la disparition de 2 vaisseaux et de plus d'un millier d'hommes. La flotte française rentre à Brest le 6 février 1712. Le succès de l'expédition est unanimement salué par les contemporains. Il montre que l'Angleterre ne règne pas encore sur tous les océans. Il vaut également à Duguay-Trouin une gloire internationale qui contribue surtout à hâter le processus de paix. Dès le 27 juillet 1712, l'Angleterre signe une suspension des armes à laquelle le Portugal adhère en novembre. L'année suivante, la paix d'Utrecht met un terme à la guerre de succession d'Espagne. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, trois livres préparée par Emmanuel. Nous écoutons le barde breton Alan Stivell avec l'un de ses plus grands succès, Tri Martelot. Thank you. Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres. Tout d'abord, L'invention de la Grèce, c'est signé Patrice Brun et c'est publié aux éditions Odile Jacob. La Grèce de nos études, c'est celle de l'Iliade, des Temples, de Périclès, de Socrate, Platon et Aristote. C'est aussi la douceur méditerranéenne au printemps. C'est celle de l'invention de la démocratie, mais une démocratie de l'exclusion, celle d'Athènes qui confondait beauté et éthique. C'est donc une Grèce enjolivée que nous portons souvent au nu. L'auteur, professeur d'histoire grecque à l'université de Bordeaux, amoureux de la Grèce antique, balaye les clichés pour faire percevoir la grandeur de la Grèce dans sa réalité. Les guerres à répétition, les femmes à Athènes, dans les gynécées, les métèques, les esclaves, c'est une Grèce colorée, vivante et très humaine. C'est aussi une réflexion sur le passé commun de notre Europe et son utilisation politique, notamment dans les conflits franco-allemands. L'invention de la Grèce, c'est signé Patrice Brun et c'est publié aux éditions Odile Jacob. L'homme qui peignait les âmes de Métine Arditi aux éditions Grasset. Avner a 14 ans. Il vit dans le quartier juif d'Acre en 1079. Il est pêcheur et à l'occasion d'une livraison à un monastère, son regard croise une icône. On ne peint pas une icône, on l'écrit. Et on ne peut le faire qu'en ayant une foi profonde. Cette maxime lui est précisée par le supérieur du monastère. Avner n'a pas la foi, mais il veut écrire les icônes et pour ce faire, se fait baptiser et quitte les siens. Il part en voyage en direction de Nazareth, de Césarée, de Jérusalem, de Bethléem, jusqu'au monastère de Mar Saba, en plein désert de Judée. Et il se met à reproduire les visages des gens ordinaires, cherchant dans chaque être sa part divine. À l'époque, c'est un scandale. L'homme qui peignait les âmes, de Métine Arditi, aux éditions Grasset. Et pour terminer cette chronique, Les Promises de Jean-Christophe Granger, aux éditions Albin Michel. Voici les dames du Reich, belles et insouciantes, qui se réunissent les après-midi à l'hôtel Adlon à Berlin à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elles bavardent, boivent du champagne alors que le monde est au bord de l'explosion. Mais les voici victimes d'un tueur mystérieux qui les surprend au bord de la Spree et les soumet à de terribles mutilations. Trois personnes très dissemblables vont enquêter, un psychanalyste surdoué et à la morale plus qu'élastique, Simon Klaus, un colosse de la Gestapo, Franz Bevin, et avec toute la cruauté d'un membre de la Gestapo. Et Mina von Hassel, une riche héritière psychiatre, mais ils vont se retrouver face à un crime encore plus horrible, l'existence des Lebensborn. La victime n'est pas forcément celle que l'on croit. Les Promises de Jean-Christophe Granger s'est publié aux éditions Albin Michel. Ainsi se referme cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisée. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures historiques. The book.